plonger dans l'eau, question de prendre le contre-pied de toute cette actualité qui nous inonde. Et nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Dia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le directeur général de la SDE et maire de Demet dans le département de Podor, à vos heures perdues, si on peut le dire ainsi. Mamadou Dia, vous êtes ingénieur du génie hydraulique depuis 1977 et titulaire d'un certificat de formation en management général de HEC Paris en 2003. Votre carrière professionnelle a commencé à la SONES, que tout le monde connaît. À votre sortie de l'IUT en 1977, vous avez occupé différents postes de responsabilité, aussi bien au niveau de la SONES que de la SDE, avant de devenir, depuis novembre 2006, directeur général de la Sénégalaise des Eaux. Président de l'Association africaine de l'eau, la plus grande organisation du continent dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de juillet 2006 à février 2012, là, il n'y a pas longtemps. On peut dire que votre carrière est totalement consacrée au secteur de l'hydraulique urbaine au Sénégal et en Afrique depuis plus de 3 décennies. Vous intervenez plutôt en tant qu'expert pour la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, principalement sur des questions relatives au développement du secteur hydraulique dans les pays en développement. Enfin, Mamadou Dia, vous êtes président de l'Association sénégalaise de normalisation depuis 2001 et maire de la commune rurale de Demet depuis mars 2009. Sénélec pour l'électricité, Sonatel pour les télécommunications, même si la libéralisation est entre-temps passée par là, SDE avant la SONES pour l'eau, 3 secteurs stratégiques, les fameux 3S très familiers des Sénégalais. Dans le domaine de l'eau, qu'est-ce que la SDE, dont vous êtes le directeur général, a apporté comme changement?
Je vous remercie et je dis un grand bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. La Sénégalaise des Eaux a été mise en place depuis le 23 avril 1996 suite à la réforme du secteur qui était intervenue. Cette réforme, elle est partie du fait déjà qu'il y avait un déficit enregistré à Dakar de 100 000 mètres cubes jour. Il y avait des difficultés à payer les factures de l'administration. Il y avait des exigences fortes d'investissement de l'ordre de 100 millions de dollars pour pouvoir rétablir la continuité du service public.
On se souvient de cette image, ces bassines d'eau sur la tête, les gens qui marchaient des kilomètres parfois à la recherche d'eau potable.
Effectivement. Or, aujourd'hui, ce spectacle a disparu. Et ça, cela fait partie de ce que l'ASD a apporté en relation avec la SONES dans le cadre de nouveaux investissements qui ont été réalisés dès 1999 avec le projet sectoriel eau financé par la SONES et qui a permis de faire une deuxième tranche à l'usine de Nit et aussi de construire 11 forages sur le littoral nord pour récupérer plus de 54 000 mètres cubes jour sur cet axe et qui a permis de rétablir la continuité du service public au niveau de Dakar. Ce que nous avons apporté, c'est la qualité de service. Je crois que c'est un élément important. Les clients qui manquaient d'eau jusqu'en 99, lorsqu'elles ont eu de l'eau, avaient une haute exigence qui était la qualité de service. La continuité, la qualité de faire en sorte que les populations puissent être entendues, écoutées et qu'on puisse répondre à leurs préoccupations et à leurs réclamations de façon régulière. Et c'est pourquoi notre entreprise a placé le client au cœur de ses préoccupations.
Mais justement, en comparaison au secteur énergétique et des télécoms que j'ai cité tout à l'heure, qui font l'objet de beaucoup de débats, quels sont les enjeux actuels autour de l'eau?
L'eau est vitale pour l'humanité. Je dirais que l'eau, c'est la vie, mais que l'eau potable, c'est la longue vie. Et aujourd'hui, quand on fait le tableau au niveau mondial, on peut avoir des inquiétudes. Si l'on sait que 884 millions de personnes n'accèdent pas à l'eau potable, dont 340 millions en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, 60% des populations subsahariennes ont un accès amélioré à l'eau potable.
Pour le Sénégal, ça donne quoi en termes de chiffres?
Pour le Sénégal aujourd'hui, quand on prend le milieu urbain, le taux d'accès est fantastique puisque nous sommes à 98,7% au 31 décembre 2011 en milieu urbain. En milieu rural, à 80,3%.
Il y a encore du d'accès. Chemin à faire.
Il y a du chemin à faire, mais le Sénégal fait partie des pays africains qui vont atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau potable, oui, avec les investissements aujourd'hui qui sont en cours et financés dans le cadre du programme eau et eau potable, assainissement pour le millénaire.
Les fameux OMD, mais c'est là en 2015, là, dans 3 ans, vous pensez qu'il y aura une couverture à 100% en termes d'accès à l'eau potable?
Il est certain que pour l'eau potable, sur le périmètre affermé donc d'hydraulique urbaine, il y aura une couverture à l'universel, puisque nous sommes aujourd'hui avec un programme financé par la SONES de 56 000 branchements sociaux pour accélérer l'accès à l'eau potable. Pour le rural, on n'atteindra pas l'universel, mais je pense que...
Et pourquoi?
Mais parce que tout simplement, le rural avait connu beaucoup de retard. Et aujourd'hui, le programme du PEPAM, d'investissement du PEPAM, permettra rapidement de corriger ces distorsions et d'arriver à l'universel aussi en milieu rural.
Et quelles sont les zones qui sont inaccessibles pour vous?
Aujourd'hui, toutes les zones sont inaccessibles, mais les distorsions qu'on trouve...
Vous voulez dire que toutes les zones sont accessibles et non inaccessibles?
Toutes les zones sont accessibles, oui. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des distorsions. Par exemple, la région du Nord, la région du Sud, la région de Tamba, voilà les régions qui sont en retard dans l'accès à l'eau potable par rapport aux autres régions du Sénégal, liées essentiellement du fait que il y a la présence du fleuve Sénégal, il y a les habitudes d'utilisation de puits, notamment dans la région sud et dans la région du Sénégal oriental, donc de Tambacounda. Aujourd'hui, nous mettons le focus des branchements sociaux dans ces 3 régions afin d'élever le niveau d'accès à l'eau potable par branchement particulier.
Je donne l'exemple parce que c'est souvent l'actualité et ça revient tout le temps. Une grande cité religieuse comme Touba crie toujours soif. Comment peut-on l'expliquer?
Je crois que c'est une question importante. Touba, 1 200 000 habitants, ne fait pas partie du périmètre affermé, donc n'est pas géré par la SDE. Ce n'est pas pour autant, en tant que professionnel, nous n'allons pas parler de Touba. Touba dispose d'une production importante, mais malheureusement, la gestion de l'approvisionnement en eau de Touba n'obéit pas à toutes les règles de gestion hydraulique, à toutes les règles de management d'une grande cité comme Touba, qui est une grande ville religieuse. Aujourd'hui, ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a des manques d'eau, du fait que les moyens dont les gens disposent pour assurer la maintenance du réseau, assurer la maintenance électromécanique, ne sont pas suffisants, et que l'eau est gratuite. Et je crois que c'est ça la grande problématique. Est-ce que l'eau doit être gratuite ou ne doit pas être gratuite? Il appartient aux gens d'en décider.
Mais quel est votre sentiment?
Mon sentiment personnel, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont installées à Touba, qui fabriquent de la glace, des boulangeries, des stations d'essence et d'autres unités industrielles. Ces unités ne devraient en aucune façon bénéficier de l'eau gratuitement.
Et elles en bénéficient comme ça?
Oui, elles en bénéficient comme ça, mais je pense que...
Tout le monde risque d'aller à Touba, finalement.
Non, je ne pense pas. Il y a un comité de gestion qui est installé à Touba, qui est en train de faire du travail. Mais je crois que ce comité de gestion devrait travailler en parfaite symbiose avec l'administration, donc notamment le secteur chargé de l'hydraulique, afin de trouver des solutions appropriées qui permettraient de dégager suffisamment de moyens pour assurer et la maintenance et une saine gestion du réseau de Touba.
Et vous voulez dire permettre justement à la SDE d'intervenir pour
non.
que Touba soit dans votre réseau?
Non,
c'est
Touba...
ce que vous voulez dire?
Non. Ce que je veux dire tout simplement, que Touba doit être géré par des professionnels. Il ne faut pas de l'amateurisme dans une ville aussi importante, une grande ville, cité religieuse, il faut que la gestion soit professionnelle, qu'elle soit SDE, qu'elle soit par d'autres entreprises, qu'elle soit par d'autres organismes bien organisés. Ce qui est important, c'est que la gestion de Touba obéisse aux règles de l'art dans le cadre d'une gestion saine de l'eau.
Et vous voulez dire, pour vous permettre de vous résumer, que toutes ces pénuries auxquelles nous assistons à l'occasion de grands événements à Touba, événements religieux surtout le Magal, c'est la conséquence d'un certain amateurisme?
Je le crois parfaitement. Je pense que le réseau de Touba mérite d'être d'abord remis en état. Aujourd'hui, sur 100 litres produits, on peut dire que 40 litres sont perdus par des fuites, par des non-conformités. Donc, le réseau doit être renouvelé.
Ensuite, est-ce que le projet de construction du grand canal du Bawol va dans ce sens? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre commentaire là-dessus?
Bon, mon commentaire sur le canal du Bawol, c'est un dossier que je ne connais pas très bien, donc je ne peux pas m'aventurer dessus. Mais à mon avis, la recherche de ressources alternatives pour Touba est importante, d'autant plus que l'eau n'est pas de bonne qualité, c'est une eau fluorée.
Parlons-en, la banlieue de Dakar vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cette eau rougeâtre qui sort des robinets?
Oui, dans la banlieue de Dakar, effectivement, nous avons connu de l'eau rouge. Aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. On fait un sondage chaque semaine pour 120 clients. Et on trace une courbe de satisfaction des clients. Dans la banlieue, le taux de satisfaction était de 45% en 2005. Aujourd'hui, on est à 93% de taux de satisfaction parce que la mise en service de la deuxième tranche de Kourma-Marsar a permis de faire une dilution entre les eaux ferrugineuses en provenance de Sébi Kotane, de Pout, Kirel et de Pout Sud, mélangées aux eaux venant du lac de Guerre, ont permis d'abaisser de façon considérable le fer continue dans cette eau. De temps en temps, il arrive que par des arrêts, des redémarrages, des réparations, que certains quartiers aient de l'eau ferrugineuse. Ce qu'il faut reconnaître, que cette eau, c'est une eau potable.
Pourtant, ce n'est pas le sentiment de beaucoup de Sénégalais qui pensent que leur ventre est devenu un bouillon de microbes. Et ceux qui en ont les moyens, d'ailleurs, boivent une autre eau. Je n'ai pas besoin de faire de la publicité.
Je dois vous rassurer que cette eau, au point de vue bactériologique, est une eau potable. Et la potabilité de l'eau au Sénégal est parmi les plus importantes du monde. Elle est de 99,4%. Ce qu'il y a, c'est qu'au plan organoleptique, c'est-à-dire au point de la perception, cette eau est difficilement buvable.
C'est important, la perception. Il ne faut pas
l'ignorer. Au plan de la perception. Oui. Mais aujourd'hui, cette situation va s'amenuiser complètement quand on mettra en service la capacité totale de l'usine de Méré, qui aujourd'hui est à 9000 m3 et qui va passer d'ici la fin de l'année à 10400 m3 et permettra une dilution beaucoup plus forte. Je crois que le secteur n'est pas resté sans solution. SDE et SONES ont toujours travaillé ensemble pour résoudre ce problème. Et un projet d'usine de déferrisation est en cours d'étude et sa mise en œuvre permettra de résoudre définitivement ce problème au niveau de la banlieue.
Nous recevons dans cette émission le grand jury sur la RFM, Mamoudou Dia, directeur général de la SDE. Autre question, est-on définitivement à l'abri d'un déficit pour Dakar et d'autres localités comme on en avait connu il y a quelques années?
Je crois qu'il faut saluer les investissements importants réalisés dans le secteur de l'eau au Sénégal et qui sont basés sur une planification anticipative qui a permis de résoudre le déficit dont je parlais tout à l'heure, mais aussi qui ont permis d'assurer la continuité du service public d'eau à Dakar. Aujourd'hui, jusqu'en 2013, la demande de pointe va être totalement couverte. Par contre, les premiers déficits apparaîtront en 2014 à raison de 15 410 m3 jour Il pourrait atteindre 46 000 m3 jour en 2017 et 102 000 m3 jour en 2020.
On retourne aux années 90 alors?
Non, j'ai parlé de cette capacité d'anticipation du secteur. Et donc, des études ont été menées et des solutions sont en vue et ces solutions devraient être mises en œuvre pour que ce déficit prévisionnel ne puisse pas apparaître et que les nouvelles installations puissent entrer en service d'ici 2015 et peut-être qu'entre 2014 et 2015, une phase intérimaire d'ouvrage de production par forage sera mise en œuvre pour éviter tout déficit. Je pense que l'État du Sénégal y est engagé, la SONES y est engagée, l'ASD est engagée et je pense qu'en combinant nos efforts, nous pourrons rapidement mettre en œuvre ce plan directeur de Dakar et de la Petite Côte
oui.
pour faire face au déficit prévisionnel annoncé.
C'est sans tenir compte de l'augmentation de la croissance démographique. Cela veut dire qu'il faudrait bien créer des conditions pour que les gens aillent s'installer ailleurs plutôt que de se concentrer justement sur cet axe Dakar-La Petite Côte, non?
À mon avis, la demande est très forte sur Dakar et sur la Petite Côte compte tenu de la concentration humaine, donc l'augmentation des populations, le développement économique, le développement touristique au niveau de la Petite Côte. Et un bon schéma d'aménagement du territoire devrait permettre de contenir les gens. D'ailleurs, dans ma commune...
Ça vous échappe complètement.
Cela nous échappe complètement, mais nous tenons compte dans nos prévisions de la situation actuelle. Donc la demande que nous essayons de répondre, c'est une demande qui tient compte de la situation actuelle. Peut-être que cette demande va baisser quand il y aura une décentralisation de l'activité économique et la fixation des populations avec des projets porteurs de revenus.
Alors, en termes d'investissement, ce sera combien pour éviter ce déficit prévisionnel?
En termes d'investissement, si on veut éviter le déficit jusqu'en 2025, ce sera plus de 400 milliards de francs CFA. Et parce que ce qui est retenu dans le schéma directeur de l'AEP de Dakar et de la Petite Côte, c'est de faire en sorte qu'une usine de dessalement soit construite à Dakar, de 50 000 à 75 000 m3 jour, une usine sur la Grande Côte de 75 000 m3 ou est KMS3, donc une autre usine d'eau à partir du lac de Guerre, et de construire 50 000 m3 jour aux environs de Ngaparou pour alimenter la Petite Côte. Il faut rappeler que pour la Petite Côte, le premier déficit de 1016 m3 jour n'apparaîtra qu'en 2019 pour être en 2020 à 37 000 m3 jour. Et je crois que là, nous avons la possibilité d'anticiper, de réaliser ces usines-là. Mais sur Dakar, il y a urgence et c'est pourquoi les autorités s'y attellent. Un comité interministériel a été présidé par le Premier ministre la semaine dernière et des décisions importantes ont été prises pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déficit à Dakar.
Alors, vous faites des projections sur quand même une longue période, des années. Il se trouve que le contrat d'affermage des SDE a quand même expiré, prorogé à plusieurs reprises. Expliquez-nous.
Oui, je pense que le fait que le contrat, lui, ait des termes ne doit en aucune façon inhiber la capacité du secteur à planifier. On ne planifie pas pour la SDE, on planifie pour les populations sénégalaises et de dire que dans un calendrier, dans un planning, que voilà ce que sera le secteur de l'eau les années à venir.
Avec la SDE ou pas ?
Avec la SDE ou sans la SDE. Ce qui est important, c'est que la capacité à pouvoir prévoir les choses, à anticiper, à réaliser des investissements pour faire face aux attentes des populations. Que ce soit avec l'opérateur actuel, que ce soit avec un autre opérateur, je crois que c'est ça qui est important. Et nous, en tant que Sénégalais, travaillant dans la SDE, notre rôle, c'est de jouer un rôle de conseil par rapport à l'état du Sénégal et de dire ce que nous pensons de l'évolution du secteur.
Alors, qu'est-ce que vous dites? Nous avons envie de continuer, nous, SDE, ou vous pensez qu'il est possible de revoir quand même les choses? Parce que quoi que l'on dise, aujourd'hui, la SDE est détenue en majorité, pour parler du capital, par les Français.
Je dois
les étrangers, pour ne pas les nommer. de stigmatiser.
Je dois dire que nous avons envie de continuer. Envie de continuer parce que la SDE est une référence en Afrique.
Avec le même schéma institutionnel.
Non, je pense qu'il faut qu'il y ait des aménagements. Oui. Il faut peut-être impliquer davantage le secteur privé dans les investissements. Je pense qu'il doit y avoir des arrangements institutionnels pour amener beaucoup plus d'implication du privé dans la réalisation des investissements.
Qui détient autour de 30% aujourd'hui dans le capital? Combien
Les privés sénégalais détiennent 32%. Oui, mais par contre, le personnel de la SDE détient 5%. Oui. L'État du Sénégal détient 50%. Ça veut dire qu'il y a quand même 5%.
5%, oui.
Et donc, il y a 42% qui sont détenus par les Sénégalais. Je crois que ça, c'est important. Donc, le partenaire privé étranger ne détient que 57,8%.
Et il est quand même majoritaire.
Oui, il est majoritaire. Je pense que quand on crée une société et qu'on fasse une délégation de gestion, il est important que le partenaire privé ait la capacité à prendre les décisions pour conduire les changements. Mais cela n'enlève en rien qu'il y a des acquis aujourd'hui indéniables au niveau du secteur de l'eau. C'est l'une des sociétés les plus performantes d'Afrique. Et cela grâce à l'implication de son personnel et à la qualité des ressources humaines du personnel.
Alors, si on fait le point, combien vous avez investi depuis que vous êtes là?
La Sénégalaise des Eaux, pour les investissements liés au secteur, sans parler donc de ses charges, a investi plus de 45 milliards de francs CFA. Parce que dans les investissements, nous participons à hauteur de 16% en termes de renouvellement de réseau, de renouvellement de compteurs, de renouvellement électromécanique et de renouvellement de branchement. Parce que ce n'est pas un affermage simple, le contrat de la Sénégalaise des Eaux. C'est un contrat avec quelques éléments concessifs. Alors que le contrat d'affermage simple n'a pas d'obligation d'investissement à la charge de l'opérateur privé. Le Sénégal, en 1995, a voulu impliquer dans une partie du renouvellement le promoteur privé. Par contre, les investissements du secteur, et ça c'est important, c'est le fait que l'entreprise a pu assainir la situation financière, le fait que l'entreprise a pu atteindre des taux de recouvrement importants qui sont de l'ordre de 98%, a permis d'établir des flux financiers importants pour payer une redevance à la SONES et lui permettre de faire face aux investissements. Je dois dire que sur la période, plus de 211,5 milliards ont été payés à la SONES et 45,3 milliards payés à l'ONAS de 1996 au 31 décembre 2011. Je crois que c'est ça qui permet au secteur de se développer. C'est ça qui permet, avec la synergie, le dialogue régulier entre les entreprises SONES, ONAS, SDE, qui permet au secteur de bouger. Et je dois dire aujourd'hui que nous recevons des visites de partout, du Bangladesh, du Pakistan, et d'un peu partout, de l'Inde. L'Inde veut être en coopération avec la Sénégalaise des Eaux aujourd'hui sur un contrat. Nous sommes en train de faire la reprise du service des eaux de la République démocratique du Congo. On fait partie des 5 entreprises préqualifiées. Nous opérons en Arabie Saoudite. Le directeur de la distribution de la Mecque en Arabie Saoudite est un agent de la Sénégalaise des Eaux. Et le responsable commercial est un agent de la Sénégalaise des Eaux. Je crois que c'est avec fierté que je le dis, parce que l'entreprise aujourd'hui est managée que par des Sénégalais. Il n'y a aucun Européen et elle est managée selon des normes internationales en matière de gestion des services publics d'eau.
En même temps, les Sénégalais qui vous écoutent aujourd'hui en zone rurale ou urbaine aimeraient bien entendre une bonne nouvelle, que le prix de l'eau a baissé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous allez le faire là?
Je dois d'abord dire que il faut distinguer deux choses dans le prix de l'eau. Il y a le coût de l'eau et le prix de l'eau. Le coût de l'eau est l'ensemble des moyens, des ressources mobilisées pour pouvoir faire face au traitement, au transport, à l'électricité, à la maintenance. Et ça, c'est des frais incompressibles parce que, étant liés à la loi du marché. que le produit de traitement qui sont liés aux produits pétroliers, l'électricité qui peut augmenter. Donc tous ces éléments fondent le coût de l'eau, lui, il est incompressible. Le prix de l'eau, c'est la tarification. C'est les tarifs qui sont payés et décidés par l'État, qui est responsable dans ses missions de la tarification. Personne dans le secteur ne peut augmenter ou diminuer à part l'État. Ce qui est important de signaler, c'est que depuis 2003, le prix de l'eau aux ménages au Sénégal n'a pas augmenté. Ça fait 9 ans. Cela, grâce à une grande productivité qui a été retournée aux clients, mais aussi par l'État qui a préféré augmenter le tarif de l'État plutôt que d'augmenter le tarif des ménages. Je dois vous dire qu'entre 2005 et 2011, les tarifs de l'eau de l'administration ont augmenté de 224%. Ah oui. Cette situation ne peut pas continuer. Je dois dire aux Sénégalais, en tout cas, qu'il n'y a pas d'augmentation des tarifs. Une étude tarifaire sera menée par l'État en collaboration avec les acteurs que sont la SONES, la Sénégalaise des eaux. Et cette étude tarifaire permettra d'y voir beaucoup plus clair.
En tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il est possible d'arriver à une baisse?
Pour moi, il est possible d'arriver à une baisse en fonction du schéma institutionnel qui sera mis en place. Mais même s'il n'y a pas de baisse, l'aspect social de l'eau, donc des tarifs socialement acceptables seront toujours maintenus, quelle que soit la grille tarifaire qui sera mise en place.
Alors, un commentaire sur le lac de Guière, il est très célèbre, hein? Tout Sénégalais le connaît. Sera-t-il en mesure de continuer à assurer l'approvisionnement correct en eau? Comme on dit, toute source a tendance à tarir.
Oui, très bien. Je pense que le lac de Guière aujourd'hui est la principale réserve stratégique d'eau douce au Sénégal. Mais je dois rappeler que le Sénégal dispose quand même de ressources en eau suffisantes. Quand on prend l'eau souterraine, les nappes superficielles ont des réserves de 50 à 75 milliards de mètres cubes qui peuvent se renouveler à 5 milliards de mètres cubes par an. La nappe semi-profonde a 10 milliards de mètres cubes de réserve. Les nappes profondes du Maestrichien sont entre 300 et 400 milliards de mètres cubes, avec une capacité de renouvellement de quelque 200 millions de mètres cubes par an. Les autres surfaces, nous en avons pour 24 milliards de mètres cubes par an, dont 20,4 milliards de mètres cubes par an concerne le fleuve Sénégal. Donc, nous avons les capacités. Et 90% de l'alimentation du lac de Guière provient du fleuve Sénégal. Nous avons suffisamment d'eau. Même si, cette année, il y a...
C'est quand même bizarre qu'on meure de soif. C'est une façon de parler dans un océan, au milieu d'un océan, en pleine mer.
Le gros problème, c'est le problème de mobilisation de la ressource. Le problème de la mobilisation de ressources aujourd'hui intervient dans un contexte assez difficile. On a une demande croissante du fait de l'augmentation des populations. On a le développement économique. On a les changements climatiques qui entraînent une raréfaction de la ressource. On a au niveau international l'aide internationale destinée à l'eau et à l'assainissement qui diminue. Donc, dans un contexte où on veut réaliser les OMD. Et ensuite, parfois, il y a des problèmes de gouvernance institutionnelle, de faible gouvernance institutionnelle au niveau des sociétés d'eau. Et là, on a parlé tout à l'heure des enjeux de l'eau. Oui. Vous savez que dans le monde, il y a 263 bassins frontaliers, dont 63 en Afrique, avec tous les risques de conflits que cela peut générer.
Justement.
Donc, c'est tous ces problèmes.
On a tendance à dire que la prochaine guerre sera celle de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'on a raison de le dire. Quand on regarde les problèmes au niveau du Jourdain, quand on voit les problèmes au niveau du Nil actuellement, avec le Soudan et l'Ouganda qui veulent faire des barrages hydroélectriques sur le Nil, ce sera au détriment sûrement de l'Égypte. Et ça, ça posera d'énormes problèmes. Je pense que c'est la concertation qu'il faut privilégier dans le grand ensemble. Et nous, nous l'avons réussi avec l'OMVS. Avec l'OMVS, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali ont pu faire des infrastructures importantes, gérer en parfaite symbiose le fleuve Sénégal et en matière d'électricité, en matière d'irrigation, avec un partage équitable de la ressource. Mais je suis convaincu que les enjeux autour des grands bassins frontaliers peuvent dégénérer.
En vous entendant parler, on est tenté de dire, mais normalement, on n'aurait pas dû avoir de problème dans le domaine de l'agriculture. On devait disposer d'eau à suffisance. On ne devrait pas avoir des problèmes d'électricité comme on en connaît depuis des années. C'est ce que vous voulez dire?
Non, je pense que dans le domaine de l'agriculture, on ne devrait pas avoir de problème. Parce que je reste convaincu, comme étant habitant de l'île Amorphile, il y a la terre, il y a l'eau, il faut des aménagements agricoles, il faut trouver des arrangements qui permettent de mettre en valeur l'ensemble de ces terres et de faire de cette du nord du Sénégal, la Californie du Sénégal, de l'Afrique, et arriver à une autosuffisance alimentaire. Moi, je pense que là, je suis convaincu...
Le constat est qu'on n'y arrive pas.
Bon, mais je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver parce que ça me paraît essentiel d'aller vers l'autosuffisance alimentaire et on devrait pouvoir faire de grands aménagements dans la région du fleuve pour arriver à cela. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, il y a une dynamique de désenclavement de l'île Amorphile, une dynamique de grands ensembles, une dynamique de culture irriguée. Et ça devrait permettre d'arriver à une telle situation.
Je sais que vous voulez qu'on parle de l'île Amorphile, on en parlera tout à l'heure. C'est le terroir de Momodou Dia, directeur général de la SDE, que nous recevons ce dimanche à l'émission Le Grand Jury. On va dire un dernier mot sur le lac de Guière. Oui. Il y a un office aujourd'hui qui le gère, mais il y a aussi la menace du Tifa, cette plante-là. Comment ça se passe, la collaboration entre la SDE et l'office du lac de Guière, pour que cette plante-là ne soit pas source de problème?
Je crois que les autorités ont senti l'importance du lac de Guière et ce qui a conduit à la création de l'office du lac de Guière. Le lac rencontre trois problèmes. C'est le problème de l'enherbement, donc du tifa, et de l'ensablement.
Oui.
Un problème de dégradation des endiguements et un problème de vétusté des vannes de régulation.
Des rejets industriels aussi.
Et ensuite, des rejets industriels. 18 points de rejet ont été identifiés par le directeur général de l'office du lac de Guière. Le tifa constitue un véritable fléau parce qu'il envahit le lac de Guière, et je pense que le tifa devrait être focardé, mais être utilisé comme combustible pour des centrales électriques ou autre chose, de manière à pouvoir arriver à améliorer ou en tout cas à donner une certaine autonomie à ces unités industrielles qui sont dans la zone. Par contre, un gros problème sur lequel l'office est en train de veiller et doit y veiller, c'est le problème de la qualité de l'eau, parce qu'il y a une activité agricole intense autour du lac, et cette activité entraîne des rejets de pesticides, des rejets de résidus d'engrais, et ça, c'est des choses qu'il faut surveiller pour éviter une altération progressive de l'eau.
Alors, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, dit-on. Quelle signification cet adage peut-il avoir rapporté au cas sénégalais, la SDE s'occupant de l'eau, la Sénélec de l'électricité?
Bon, je pense que Sénélec et SDE vont ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le premier client de la Sénélec. Nous avons une facture d'électricité annuelle d'environ 14 milliards. Et nous avons besoin de Sénélec, parce que souvent on nous dit, pourquoi vous n'êtes pas autonome de Sénélec?
Oui.
Ce n'est pas notre mission.
La Sénélec et ses coupures de courant qui peuvent forcément impacter sur votre service, non?
Ça impacte notre service, mais je pense qu'en parfaite synergie, nous sommes arrivés avec Senelec à trouver des alimentations préférentielles pour la SD. Parce qu'en l'absence d'électricité, si ajoutant l'absence d'eau, ça va être une révolution. On peut manquer d'électricité, acheter une bougie, faire autre chose, mais si on manque d'eau, ça devient un phénomène excessivement grave. Donc Senelec nous a toujours privilégiés et nous avons une parfaite collaboration. Les techniciens de SDE, de notre dispatching, est en relation permanente avec le dispatching de Senelec, avec les responsables de Senelec, que nous pouvons déranger à toute heure. Et je pense que le directeur de l'exploitation de SDE ne me démentira pas. Donc je crois que nous sommes arrivés à avoir un cadre de concertation, mais nous aurons des services publics. Ces services publics ne peuvent en aucune façon être exempts de panne, et que ces pannes auront toujours des répercussions sur l'alimentation en eau et l'alimentation en électricité des populations.
Alors, on va, avant d'aborder un autre thème, les inondations et l'assainissement, puis l'actualité politique pour terminer, le colonel Moumar Gueye, qui un auditeur qui a écrit un livre, « L'eau, un trésor à protéger », qui dit qu'il ne comprend pas que cet ouvrage soit ignoré, et par SDE et par la SONES.
Non, je crois.
Vous en avez
que...
entendu parler, c'est tout.
Non. Le colonel Moumar Gueye est un ami personnel. Nous avons participé à son premier livre. Certes, on n'a pas participé au deuxième livre, mais c'est un livre important. Je pense qu'il devrait être enseigné dans les écoles, utilisé comme sensibilisation. Nous n'ignorons pas du tout ce livre et je dois dire que pour le cas de la SONES, c'est SONES qui a sponsorisé le livre à sa parution. Donc nous contacterons le colonel Molagué, nous discuterons avec lui et nous verrons quelle forme de vulgarisation de livre est possible en collaboration avec la Sénégalaise des Eaux.
Bon, s'il nous écoute, il a la réponse à son interpellation. Les inondations, Momodou Dia, directeur général de la SDE, c'est dû à quoi, à votre avis, ces inondations que nous connaissons régulièrement, notamment en banlieue de Dakar?
Merci. Bon, depuis 2005, quand même, on a vu que le Sénégal connaît un cycle pluvieux ponctué par des inondations, notamment dans la banlieue de Dakar. Mais il faut reconnaître que dans la banlieue de Dakar, il y a des contraintes physiques, des contraintes topographiques, des contraintes hydrogéologiques. On a un nombre élevé de cuvettes dont le niveau est inférieur au niveau de la mer dans la banlieue. Et ensuite, il y a une présence de dépression dunaire dans la banlieue et tout ça cause des problèmes. Il y a aussi le problème de l'affleurement de la nappe dans beaucoup de zones, se traduisant par la saturation permanente du sol. Ce qui fait que quand il pleut, le sol n'a plus une capacité d'infiltration et que donc l'eau se remet en surface. Il y a aussi la rupture du réseau hydrographique du fait de l'obstruction des passages d'eau dû à une urbanisation anarchique. Et donc, il y a lieu de pouvoir quand même prendre des solutions assez hardies, tout en communiquant et en sensibilisant les populations.
Quelles compétences pouvez-vous mettre à la disposition de l'État sénégalais aujourd'hui pour résoudre ce problème, vous, SDE?
SDE peut, au point de vue des études, participer à toutes les études, apporter son savoir-faire par le bureau d'études de la Sénégalaise des Eaux, ça c'est de un. De deux, la Sénégalaise des Eaux est à même de pouvoir aider à l'ensemble des opérations de maintenance des ouvrages qui ont été construits, qui parfois peuvent connaître des difficultés, donc maintenance électromécanique, maintenance hydraulique de l'ensemble de ces ouvrages. La Sénégalaise des Eaux peut participer à la mise en place de systèmes d'alerte précoce pour les inondations, parce que aujourd'hui ce système d'alerte précoce fait défaut, et participer aussi dans la mise en place de motopompes et d'autres éléments allant dans le sens de l'évacuation. Mais ce qui est important, c'est que les études doivent conduire à dégager les voies d'eau. De toute façon, l'eau est paresseuse. Elle emprunte toujours le chemin le plus facile. Donc, dégager les voies d'eau, toutes les zones basses, les considérer comme des bassins, est pompé directement en mer. Mais il faut privilégier aussi l'évacuation gravitaire partout où cela est possible, c'est-à-dire par des canaux en béton armé, faire en sorte que l'eau s'écoule d'elle-même.
Une critique que vous formulez à l'encontre de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, par exemple ?
Non, il faut dire que les eaux pluviales, ce n'est pas tellement de la compétence de l'ONAS. Oui. C'est d'abord décentralisé. Il faut que la loi sur la décentralisation, c'est notamment la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, communes et communautés rurales puisse être appliquée pour que l'ensemble des communes s'impliquent. Mais le phénomène d'inondation est un phénomène national pour lequel toutes les synergies doivent être développées. SDE, ONAS, les collectivités locales, l'État, le ministère de l'Intérieur, direction de la protection civile, le plan ORSEC, tous les sapeurs-pompiers, tout ça devrait être mis en synergie dans un plan d'action cohérent, dans un plan d'action où il y a des priorités définies et aussi les missions définies. Parce qu'aujourd'hui, sur les inondations et l'assainissement, il y a énormément d'intervenants sans que les missions soient balisées. Et je pense que ça, on devrait commencer à mettre de l'ordre qui fait quoi et quand est-ce qu'il doit le faire et qui est le responsable de la gestion de l'ensemble de ces éléments.
Est-ce le même problème auquel nous assistons, je pense, à ces populations des parcelles assainies, cité Fadia, Camberène, qui vivent des moments extrêmement difficiles, une catastrophe, l'émissaire de Camberène, avec ses eaux usées qui se déversent, avec les conséquences qu'on imagine aisément. Comment vous le comprenez?
Moi, je dis toujours que les grands projets, avant de le mettre en œuvre, il faut recueillir les avis des populations. Mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une démarche participative, une bonne sensibilisation, une bonne communication. Mais ensuite,
le régime précédent a failli, de ce point de vue.
À mon avis, il y a eu des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'assainissement du village de Camberène. Et ça, ces engagements n'ont pas été totalement tenus. Je pense que quand l'État prend des engagements vis-à-vis des populations, ces engagements doivent être tenus, planifiés, et les populations tenues informées, même s'il y a des manquements.
C'est la décision prise par le nouveau régime de dire, bon, finalement, on ne fait plus l'émissaire là-bas, on va le faire ailleurs. Qui va accepter, si on suit la logique, qu'on déverse ses eaux ailleurs, si on procède de cette façon? Est-ce que l'État, au-delà des régimes, n'est pas quand même irresponsable sur ce coup-ci?
Non, je ne pense pas.
Il n'assume pas ses responsabilités.
Personnellement, je ne pense pas. Pour le fait de délocaliser, il y a qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Le financement est arrivé à terme. Il n'a pas été utilisé. Donc, l'Union européenne n'y met plus son argent. Donc, les travaux ne peuvent pas se faire. Mais si on doit faire d'autres travaux, autant les mettre dans des endroits où ça ne pose pas de difficultés. Moi, je crois que c'est ça l'esprit de la délocalisation.
Par exemple, ça ira où?
Ben écoutez, je ne connais pas tellement la topographie de Dakar. C'est mes collègues de l'assainissement connaissent mieux que moi. Et l'État aussi connaît mieux les endroits qui n'ont pas de suggestion.
On verra. L'actualité politique, l'alternance survenue le 25 mars 2012 avec l'élection du président Macky Sall en remplaçant du président Abdoulaye Wade. Les actes posés par le nouveau régime sont-ils significatifs et encourageants pour Momodou Dia, directeur général de la SDE?
Bon, je dois vous dire que l'analyse du tableau politique de l'Afrique caractérisé par des turbulences un peu partout ne peut placer le Sénégal que dans les pays, dans la catégorie des pays disposant d'une démocratie vivante. Je pense que les deux alternances que nous avons connues en sont l'illustration. Pour la dernière, les craintes étaient grandes, mais les Sénégalais ont démontré que l'intérêt du pays passait avant toute ambition. Et je reste convaincu qu'une alternance est toujours porteur d'une dynamique faite d'innovation et de créativité. Et c'est en ce sens que je pense que les actes qui sont en train d'être posés devraient permettre dans tous les domaines de pouvoir apporter des changements là où cela est nécessaire. Parce que le changement est facteur de progrès. Et c'est à ce titre, donc, nous pensons que des innovations vont être faites dans le domaine de l'eau et l'assainissement, que domaine que je connais encore mieux. Et la SDE mettra son expérience et son expertise à la disposition des nouvelles autorités pour conseiller, assister, aider au développement de ce secteur.
Outre la SDE, est-ce que Momodou Dia, institut personnel, s'engage en politique aux côtés du président Macky Sall, par exemple?
Je dois dire que, d'abord, moi, mon engagement politique, comme vous l'appelez, d'abord avait un soubassement, mon appartenance à la société civile. Je dois vous rappeler qu'avant d'être maire de la nouvelle commune de Demet, j'ai été pendant plus de 15 ans président de l'Union pour le développement de Demet, et qui a eu à faire beaucoup d'actes d'action de développement à Demet. Je rappelle aux auditeurs que Demet, c'est le village natal de Tchernomountegatal, ce qui est quand même important. Cet engagement part du fait que moi, personnellement, j'ai pensé que tout en travaillant à Dakar, nous avions une obligation qu'il fallait contribuer au développement de notre terroir. En 2009, cet engagement a pris une nouvelle dimension avec la création de la commune de Demet. Et j'étais, en tant que membre de la société civile, élu conseiller municipal sur la liste de la coalition SOPI, du fait que les populations avaient opté pour un vote unique. Grâce à la volonté des populations, donc, de Demet et toutes les parties prenantes, j'ai été élu maire alors que nous étions 5 conseillers appartenant à la société civile. C'est pour moi d'ailleurs l'occasion que vous m'offrez de remercier toute la population qui a placé sa confiance en moi.
Qu'est-ce que vous avez fait pour concrètement pour cette population?
Je crois que nous avons compris qu'il faut gérer autrement les communes. Il faut les gérer comme une entreprise, mais on ne peut pas tout attendre de l'État.
Comme vous gérez la SDE.
Oui.
L'avez modélisé comme ça.
Je l'ai modélisé comme ça, où j'ai pensé qu'on ne peut pas compter que sur l'État. Il faut compter sur son imagination, sa créativité, pour trouver d'autres ressources. Et dans ce cadre, on a signé une convention avec une institution de la place pour un projet environnemental dont l'objectif principal, c'est zéro sachet en plastique au 31 décembre 2012. Et tous les moyens...
Dans six mois.
Et toutes les dispositions sont en train d'être prises, puisque cette convention est signée, l'argent a été mis en place dans les caisses de la perception de Podor. Il ne nous reste aujourd'hui qu'à faire cela et à planter 1000 arbres chaque année durant l'hivernage. Donc faire de Demet une commune verte.
On viendra faire un tour pour voir si vous allez réussir à faire de Demet une commune verte. Ça peut inspirer en tout cas beaucoup de gens quand on voit tous ces sachets qui inondent et envahissent Dakar et d'autres villes sénégalaises.
Donc, pour ce qui s'agit de l'engagement vis-à-vis du président, je dois dire
le que président Macky Sall.
Je connais le président de longue date. Ensuite, par tradition, le village de Demet a toujours fait des votes uniques. Et c'est dans ce cadre, donc, que l'ensemble des populations, après les élections, ont pensé qu'il faut soutenir le président Macky Sall. Et moi-même, à leur tête, donc, nous avons décidé de soutenir le président Macky Sall.
Il n'y a pas d'opposition à Demet. On est toujours avec le pouvoir.
À Demet, il n'y a jamais eu beaucoup d'opposition. Les gens de Demet ont toujours voté pour traditionnellement pour le gouvernement en place, l'État en place.
Oui. Alors, quelle réflexion vous inspire tout ce débat aujourd'hui sur la question de la transparence des audits? Il y a déjà certaines personnalités de l'ex-régime qui ont été convoquées à la gendarmerie pour de délits supposés ou présumés d'enrichissement illicite.
Moi, personnellement, je suis partisan de la bonne gouvernance. Partisan de la bonne gouvernance, c'est que toutes les règles édictées doivent être respectées, quelle que soit la position de la personne dans les appareils. Il y a donc nécessité de clarifier tout ça. Je pense que dans les audits, ou dans les contrôles qui se font un peu partout, il faut que ce soit fait avec beaucoup de sérénité. Ouais. Mais nécessairement, il faut que des clarifications soient apportées sur un certain nombre de faits. Ça permettra d'éclairer les Sénégalais, ça permettra d'éviter les écueils et ça permettra aussi de pouvoir ne pas recommencer de telles choses si elles existent, je veux dire.
En respectant la présomption d'innocence.
Voilà.
Merci Momodou Dia, directeur général de la SDE et maire de Demet, une commune rurale dans le département de Podor. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury, présenté avec un immense plaisir par Mamoud Ibrakan à la technique Chérif Diop. Dans un instant, le journal de 12h avec Ismaïla Camara. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Voilà.